Voici le cinquième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1958. Je vous ai gâté, car en 1958 au cinéma, ben, y a des trésors. J'évoquerai aussi une terrible catastrophe minière, et puis un double meurtre gratuit, deux amoureux abattus par balle.
1958, on de la raconte sur Europe 1.
C'est toujours pareil. On croit toujours qu'on a tout inventé. La Star Academy, The Voice et autres télécrochés. Eh bien, Europe numéro 1 en 1958 faisait déjà ça, pour le cinéma.
Il était une fois une jeune fille, il était une fois un jeune homme qui rêvait de faire du cinéma. Ainsi commence ce soir l'histoire que nous allons raconter tous les dimanches. Et vous allez la vivre, de semaine en semaine, jusqu'au Festival de Cannes, en même temps que nous, en même temps que les jeunes comédiens et comédiennes qui répondent à notre appel quand nous leur disons « Venez, vous croyez avoir du talent, vous l'espérez tout au moins. Nous vous le confirmerons. Vous n'obtenez pas d'être vu, d'être entendu par des personnalités du théâtre et du cinéma. Venez, nous vous présenterons au plus grand nom du spectacle. » Vous pensez « Je me présente sans cesse à des auditions, mais on ne me voit jamais à l'écran. Venez. » Nous vous présenterons sur un écran après avoir tourné avec vous des bouts d'essai. Et soudain, votre vie sera transformée. Venez, grâce à son immense audience, Europe numéro 1 vous offre ce soir l'occasion de vous faire connaître. Oui, grâce à Europe numéro 1, nous allons assister à la naissance d'une étoile.
Les deux premiers talents dénichés par Europe numéro 1 s'appellent Marie Laforêt, 20 ans, et Claude Berry, 25 printemps. On a eu du nez, hein. Cette même année 1958, le critique de cinéma François Truffaut passe une annonce dans le journal François. Il cherche l'acteur principal de son premier film. Oh, dis donc, t'as lu ça? On pourrait peut-être envoyer le môme. Voyons, François Truffaut, critique de cinéma, cherche jeune homme de 13 ans pour tenir premier rôle de son film Les 400 coups. Tu le connais, toi, Germaine? Ce Truffaut, là. Bah non, ça me dit trop rien. Mais en voyant quand même Bernard. Mais Bernard ne sera pas choisi. En revanche, c'est un certain Jean-Pierre Léo qui décroche le rôle. Sacrément culotté, le môme.
On n'a pas mis ton âge sur la lettre. Quel âge
as-tu ? J'ai 14 ans.
T'as 14 ans ?
Oui.
Ah bah c'est un peu vieux, là, pour les rôles principaux.
Ah oui, mais je suis pas très grand, hein.
Ah bon ? Tu parais 12 ans et demi, tu crois ?
Bah je pense. Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Ben,
c'est
oui.
Gouailleur ?
Oui. C'est pour ça, parce que le gars penseur, moi.
Non.
Non.
Tu vas en classe où ?
Oh, ben, ça, je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis. Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement.
Ah bon ?
Ça me fait des vacances, quoi.
Ouais. Sinon, ça tu fait, es en pension ?
Quoi, oui, je suis en pension interne, quoi. Je sors juste aux grandes vacances.
Mais là, ils vont pas être contents alors de te voir manquer comme ça.
Oh, mais eux, ça fait rien, du moins que je suis content.
En 1958 aussi, le réalisateur Marcel Carnet croque la jeunesse de Saint-Germain-des-Prés dans son film Les Tricheurs. Des jeunes turbulents, fêtards, buveurs et désenchantés.
Un témoignage sur la jeunesse, grave, désespéré, lyrique.
Bob, est-ce que tu triches ?
Chaque jour, chaque soir, dans chaque ville, le public ratifiant l'opinion unanime de la presse va en foule applaudir Les Tricheurs.
Enfin, le film Les Tricheurs obtient devant un jury présidé par M. André Mauroy de l'Académie française le grand prix du cinéma français pour le meilleur film de l'année.
Pour ce film, Marcel Carnet offre le tout premier cachet de cinéma à une ribambelle de jeunes acteurs inconnus du grand public. Jean-Paul Belmondo, Dany Saval, Guy Bedos, ou Jacques Perrin, par exemple.
Jacques Charrier.
Jacques Charrier, que j'ai découvert au Théâtre Montparnasse, où il joue le journal d'Anne Frank avec Pascal Audrey. Il joue le jeune premier, et qui est également le jeune premier dans le film, mais un jeune premier un petit peu particulier en ce sens qu'il ne veut pas avouer son amour parce que la mode est de ne pas, enfin on ne s'attendrit pas, il ne faut pas s'attendrir, ce serait un déshonneur et l'amour doit être effectué en camarade et pas aucun sentiment ne doit intervenir.
Et vous vous retrouvez dans ce personnage, Jacques Charrier, ce personnage est très proche de ce que vous êtes dans la réalité, dans la vie.
Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Il est brûlant. C'est presque un rôle de composition à 20 ans.
Les Tricheurs est un carton de 1958. Près de 5 millions d'entrées. Et dans le film, on entend ce tube. Tequila de The Chaps.
Ondelatte raconte sur Europe 1.
Et voici une petite exploration musicale et cinématographique. Le 26 mars 58, le film de guerre Le Pont de la rivière Kwai de David Lean cumule 7 Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure adaptation, meilleur acteur pour Alec Guinness, meilleur montage, meilleure photographie et meilleure musique pour 7 mélodies. Tiré d'une marche militaire britannique de 1914. À l'époque, vous le savez, quand ça marche aux États-Unis, c'est que c'est bon pour la France. Et c'est Annie Cordy qui, en 58, met cette musique à sa sauce. Ça donne « Hello, le soleil brille, brille, brille ». Le titre va rester 25 semaines en tête des ventes.
Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, te voici de retour. Là-bas, c'est ton village, au vert cottage, où t'attends l'amour. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, siffle d'un cœur joyeux. Là-bas, la vie entière, dans ta chaumière, tu feras heureux.
Autre film incontournable de l'année 58, Bonjour Tristesse, adapté par Otto Preminger à partir d'un livre de François Sagan. Au générique, une jeune vedette montante d'Hollywood, Jean Seberg, et une chanson de Juliette Gréco.
Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, tristesse, ami qui me ressemble. Tu es le seul miroir où je peux contempler ma jeunesse. Bonjour, tristesse.
Pendant ce temps-là, Monsieur Hulot est de retour. Jacques Tati se moque des habitats modernes dans le film Mon oncle. En 1958, l'âge moyen des réalisateurs du cinéma français dépasse allègrement les 50 ans. Et Louis Malle, lui, en a 26. Il s'est déjà fait connaître dans le documentaire, il a réalisé Le Monde du Silence avec le commandant Cousteau. Et là, en 1958, Louis Malle signe ses deux premiers vrais films, Les Amants et Ascenseur pour l'échafaud.
Je n'attends que toi. Monsieur Tavernier ce soir?
Non, madame.
Ce polar romantique de Louis Malle est bercé par la musique de Miles Davis. Le jazzman n'a eu besoin que d'une nuit pour composer la musique du film. Et maintenant, un titre sur lequel on s'enlaçait en 1958. Twilight Me, des Platters.
Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. Tis twilight time. When purple-colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight light. Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. In the sweet and same old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, at twilight time. Together, at last, at twilight time.
Nous poursuivons notre balade dans l'année 1958 et voici le point final d'une affaire qui a tenu les Français en haleine cette année-là. Le 20 mars 58 à Versailles s'ouvre le procès de Jean-Claude Vivier et Jacques Serméus. Ils sont accusés d'avoir assassiné 15 mois plus tôt, 3 jours avant Noël, dans le parc de Saint-Cloud près de Paris, Nicole et Joseph, deux jeunes amoureux retrouvés avec deux balles de 6,65 dans la tête.
Une 203 dans une allée du parc de Saint-Cloud. À quelques mètres de la voiture, deux cadavres qu'on identifiait bientôt comme ceux de Joseph Tarago et de Nicole Depuy, tous deux âgés de 20 ans. Ainsi se révélait le 22 décembre le crime de Saint-Cloud. L'enquête ne donnait aucun résultat quand le 11 janvier à Paris, les policiers arrêtaient porteurs de divers objets qui les identifiaient comme les auteurs du crime, deux jeunes gens de 19 ans. Jean-Claude Vivier, un dévoyé, auteur de nombreux méfaits, et Jacques Sermeuse, qui avouait aussitôt.
Quand le président de la cour d'assises interroge les accusés, les réponses sont pathétiques.
Alors, monsieur Vivier, quelle est votre version? Pourquoi ce double assassinat? Vous connaissiez ces deux jeunes amoureux? Ils vous avaient fait quelque chose?
Non. Non, monsieur le président, rien, rien. On voulait juste leur voiture. Ils avaient une 203 Peugeot. Moi, bah, je savais conduire que ça.
Et pourquoi diantre vouliez-vous cette voiture?
Pourquoi mettre des hold-up?
La salle d'assises pauvre de rire. La raison du double assassinat est donc navrante de stupidité. Nourri de films de série B, Vivier et Serméus avaient décidé de devenir des gangsters, comme ceux qu'ils admiraient au cinéma, et Serméus ne savait conduire que des 203 Peugeot. Et voilà donc pourquoi ils s'en sont pris à ce couple.
Les jurés, ils étaient sept hommes, dont la moyenne d'âge est de 50 ans. Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils entendu? Ils ont vu deux jeunes gens de 20 ans, dont l'un, Jacques Sermeuse, pendant 3 jours, n'a jamais relevé la tête, et l'autre, Jean-Claude Vivier, inconscient, cynique, qui a pleuré lorsqu'on a lu dans le prétoire une lettre dans laquelle sa mère demandait pardon pour lui. Ils ont entendu 30 témoins venir exposer l'affaire, raconter la vie des deux meurtriers, depuis leur enfance jusqu'au double crime, et après. Ils ont entendu Vivier s'écrier « Je ne peux pas vous expliquer, il faut voir l'état d'esprit qu'on avait alors. » Et Sermeuse « J'ai eu peur de leur dire haut les mains. » Ils ont entendu la tante de Jacques Sermeuse s'écrier à l'audience « Il avait 19 ans et il lisait Mickey et jouait avec des petites autos. » Et la réplique du procureur Il faut aussi leur dire aux jurés qu'ils jouaient aussi avec des 7,65. Ils ont entendu Vivier affirmer « Sermeuse, sa tante l'énervait. Il avait envisagé de la tuer. » ils ont entendu Maître Floriot raconter simplement « Un jour, quelqu'un a dit à Madame Tarago, c'est un crime de J3. » Et Madame Tarago a répondu « Mais mon fils, c'était aussi un J3. »
Là, il faut que je vous explique. Il a dit « J3 ». Eh bien, en 1958, J3, c'est le surnom que l'on donne aux adolescents. Parce qu'après la guerre, les ados avaient un ticket de rationnement spécial, le J3, qui leur donnait droit à plus de nourriture. Les deux accusés sont donc des J3, et les victimes aussi. Et pour ce double assassinat, en 1958, ils encourent la peine de mort. Le 22 mars 1958, le verdict tombe après 45 courtes minutes de délibéré.
Jean-Claude Vivier et Jacques Sermeuse sont debout dans le box des accusés. Il est 22h40, c'était hier soir. Il y a 50 journalistes placés devant eux de l'autre côté de la salle de la cour d'assises de Versailles. Un peu plus loin, le public, 200 personnes au moins, est silencieux. C'est l'épilogue. 3 jours d'audience, des heures d'éloquence pour atteindre à ce moment pathétique, celui du verdict. Le banc de la partie civile est placé à 5 mètres du box des accusés. Sur ce banc, monsieur et madame Tarago, monsieur et madame Despouet, les parents des victimes. Leurs yeux à tous sont rouges. Tous les quatre, dans un réflexe identique, viennent de se tourner. Ils regardent les meurtriers de leurs enfants. Chacun dans la salle fixe Jean-Claude Vivier et Jacques Sermeuse. À l'exception d'une seule personne, le président Chapard. C'est lui qui, à ce moment, lit la sentence. 16 fois, les jurés ont répondu oui. Avant même que le président Chapard, qui a mené les débats avec calme, avec mesure, ait dit « Vous êtes condamné à mort », chacun le sait, les condamnés aussi. Et lorsque la sentence est tombée, ils n'ont pas tressailli. Ils n'ont pas lancé un cri, rien. Ils ont attendu qu'on leur dise que le procès était terminé. Jacques Sermeuse, le premier, est sorti entre 2 gendarmes. Jean-Claude Vivier, lui, s'est penché par-dessus le box. Il a parlé 1 minute avec son avocat. Et puis c'est fini. Quelques personnes ont bien applaudi un instant plus tôt. Quelques personnes, 3 ou 4 parmi les dizaines d'autres qui ont secoué la tête et sont rentrés chez elles tout de suite en relevant le col de leur pardessus.
Les deux hommes font un recours en grâce auprès du président de la République. Jacques Sermeuse est gracié. Mais Jean-Claude Vivier, qui est considéré comme l'instigateur du crime, est guillotiné le mardi 6 août 1958 à 4h55 du matin à la prison de la Santé. C'était Come On Everybody, d'Eddie Cochran.
1958, Ondelat raconte sur Europe 1.
Je vais maintenant vous raconter une catastrophe qui, en 1958, a beaucoup ému les Français. Le 16 janvier 58, à Monceau-les-Mines, en Saône-et-Loire, au cœur d'un bassin minier, une explosion se fait entendre au niveau du puits de Plichon.
Une enquête technique est en cours à l'heure actuelle. Les spécialistes du service des mines sont tous en ce moment au fond. Et il est difficile à l'heure actuelle de préjuger sur leur solution. En tout cas, l'hypothèse d'un coup de poussière qui avait été envisagée au début paraît être écartée.
Est-ce que c'est un coup de poussière ?
Le coup de poussière est l'explosion provoquée par une inflammation des poussières de la mine. À la suite, en général, d'un coup de grisou.
Malheureusement, il y avait des mineurs sur le site ce jour-là.
Monsieur Simon, vous étiez ce matin au puits, c'est le puits Plichon, je crois.
Exactement, oui.
Vous travailliez à quelle distance de l'endroit où s'est produit l'accident ?
Environ 300-400 mètres.
Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, j'étais averti par un camarade qui travaillait sur la tête du plan où a eu lieu l'accident. J'étais averti, moi et mon camarade Miskin, mon homme, Il y avait une forte déflagration.
Vous avez entendu l'explosion, non ?
Ah non, nous n'avons pas entendu, disons le loin. Alors on s'est rendu sur les lieux, et c'est là qu'on a vu un dégagement de poussière considérable.
Oui.
D'ailleurs, on a averti un chef de poste qui attendait d'avoir à faire évacuer le quartier, qui n'avait d'ailleurs pas pris la responsabilité de faire évacuer. Parce qu'il y avait des hommes qui étaient placés plus loin, un quartier qui était placé plus loin, où il y avait des ouvriers qui travaillaient. On lui a précisé de faire évacuer ces ouvriers, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Et c'est après avoir attendu un certain moment, au moins 10 minutes, un quart d'heure, qu'il est venu un ouvrier, c'est-à-dire un poudrier, un bout de feu, qui est venu, et qui lui a dit qu'il y a eu une forte déflagration, il y a eu un coup de flamme, il y a eu un coup de grisou. Alors au bout d'un certain temps, on a remonté un ouvrier, c'est d'ailleurs le premier que j'ai vu, nommé Fioretti, qui lui était complètement brûlé, on voyait la peau des mains qui pendait, la peau sur les bras également, on voyait de nombreuses brûlures, alors c'est là qu'on s'est précipité pour chercher des brancards.
Quelle profondeur de brûlé?
Quelle profondeur qu'ils peuvent être, je ne sais pas. Ils étaient peut-être à 130-140 mètres.
Oui, ils sont une trentaine là en tout, je crois. Hein.
Ils sont 28 à l'hôpital, dont un qui est rentré chez lui, ils étaient 29, ils restent à 28 à l'hôpital, il y en a 19 à Lyon. Et il y en a 9 à l'hôpital des Mines. Il y en a un qui est rentré chez lui, mais les médecins ont précisé que peut-être ce soir ou peut-être dans la journée de demain, qu'il sera obligé d'en hospitaliser de nouveau. D'ailleurs, il faut se rappeler de l'accident de la centrale, où il y a un mineur qui lui-même s'était rendu à pied à l'hôpital et 6 jours après, il était mort.
20 mineurs meurent des suites de leurs brûlures. La région est sous le choc. Le 20 janvier 58, les funérailles des 20 mineurs rassemblent 20 000 personnes. Et Europe numéro 1 se mobilise pour aider les familles de ses ouvriers. Et pour cela, il existe à l'époque une émission qui fait appel à la générosité des Français. Elle s'appelle « Vous êtes formidables » et c'est Pierre Bellemare qui l'incarne.
Mes chers amis, maintenant, il ne vous reste plus, comme d'habitude, qu'à être formidable.
En 1958, les auditeurs d'Europe numéro 1 sont formidables. La station récolte près de 8 millions de francs pour les orphelins des mineurs. Évidemment, la radio vide la réclame, en 58 aussi. Et donc, à la fin de son émission, c'est Pierre Bellemare lui-même qui annonce les publicités.
Et maintenant, chers amis, il est temps de vous parler de celui qui est toujours à nos côtés et qui est, comme vous le savez, 3 fois formidable. Il s'agit du nouveau Montsavon habillé d'or. Formidable et nouveau par son habillage d'or, formidable et nouveau par son parfum plus subtil de lavande des Alpes. Formidable et nouveau par sa mousse abondante, même en eau calcaire, telles sont les qualités du Montsavon 3 fois nouveau, du Montsavon habillé d'or.
1958, Ondelatte raconte sur Europe 1.
En 1958, le journaliste d'Europe numéro 1, Pierre Laforêt, décide de confesser lors d'une émission les plus grands artistes et intellectuels du moment. Il leur demande de dire ce qu'ils pensent de 1958 et d'imaginer ce qui va se passer en 2058, c'est-à-dire dans 100 ans. Et il place tout ça dans ce qu'il appelle la pyramide numéro 1, qui est une sorte de legs sonore pour la postérité.
Pour la pyramide numéro 1, ces personnalités les plus illustres et les plus célèbres de notre époque apporteront ce soir leur concours pour que les auditeurs de 2058 connaissent notre civilisation.
Notre époque, quoi que certains puissent en penser, est aussi celle du rire. Le rire nous donne cette santé dont si souvent nous avons besoin. Or, le médecin qui a répondu ce soir à l'appel de la pyramide numéro 1 ne décevra pas nos auditeurs de 2058. Et je passe immédiatement le micro à notre reporter Louis Rognoni.
Eh bien, ce soir, Fernand Reynaud nous a fait l'amitié de venir jusqu'à notre micro. Fernand Reynaud, ce n'est pas la peine que je le présente aux auditeurs de 1958, mais pour ceux de 2058, je vais dire que c'est un monsieur qui nous faisait rire.
Oui, vous avez raison, qui faisait rire, parce que dans le comique, on n'est jamais sûr de lendemain, vous voyez.
Cependant, Fernand Reynaud, Fernandel, qui est passé au cours d'une de nos émissions précédentes, a dit de vous que vous étiez une nature comique. Est-ce que vous vous êtes interrogé sur le sens profond de cette nature comique?
C'est-à-dire que le comique, vous savez, c'est un peu aléatoire, c'est une question de circonstance. On fait rire un jour très facilement, on se demande pourquoi, et le lendemain, dans la salle, personne rigole, on se demande pourquoi aussi. C'est fait beaucoup de mystères. Mais enfin, il y a quand même une base solide, dans le sens qu'on fait rire avec des hasards.
Des situations.
Des situations et des contrastes.
contraste dans les situations.
Oui, si un petit bonhomme arrive sur scène et vous lui dites en public « Oh, est-ce que vous êtes grand, vous ?» Ça peut faire rire, enfin, quand il y a la situation, quand le public est chaud, que c'est bien parti. Si vous levez le rideau, vous dites ça, ben personne n'a rigolé, non ?
Et vous pensez qu'en 2058, ceux de 2058 qui devront faire rire emploieront les mêmes méthodes que vous ?
Que moi, et que j'ai pris un peu aux autres aussi, il y a 100, il y a 200 ans, il y a en 1758, en 1858, ils employaient les mêmes choses que maintenant.
Oui, le faire valoir d'un côté,
oui,
et de l'autre côté, le clown, en quelque sorte.
Oui, le clown, enfin l'Auguste.
L'Auguste.
Il y a l'Auguste et le clown, c'est-à-dire le monsieur très sérieux. Alors dites-moi, vous, s'il vous plaît, monsieur, vous êtes mon élève. Oui, 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 je suis votre élève. Oui, toujours. Alors dites-moi, quels étaient les premiers habitants de la France ? C'était des Gaulois. Ah, très bien, soyons sérieux. Oui, toujours. Soyons sérieux. Et leurs femmes, c'était des Gauloises. Très bien, très bien. Et leurs enfants, qu'est-ce que c'était ? Répondons sérieusement, alors. C'était des mégots. Voilà. Voilà. Eh bien, je crois que c'est un théorème, comme en géométrie. Ce sont des bases solides.
Ce 18 mai 58, après Fernand Reynaud, Europe numéro 1 interroge Charles Trenet.
Charles Trenet, que souhaitez-vous à nos amis de 2058 ?
À nos amis parisiens ? Je leur souhaite que Paris soit détruit pacifiquement et reconstruit à la campagne et que l'on conserve Paris comme le plus beau monument du monde, mais qu'on n'y habite plus.
Et que restera-t-il de la chanson française, d'après vous, en 2058 ?
Alors ça, je n'en sais absolument rien, mais je souhaite qu'il en reste ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire florissante.
Et pensez-vous que dans l'avenir, la poésie soit sacrifiée dans la chanson française ?
La poésie a toujours été sacrifiée, soit dans la chanson, soit dans la poésie. Alors, si elle doit être sacrifiée, elle sera aussi bien sacrifiée dans la poésie que dans la chanson, mais je pense qu'il y aura toujours, et je le souhaite, des poètes qui chanteront et des gens qui chanteront des poésies.
Et pensez-vous que le rythme change, qu'il y a un rythme plus trépidant peut-être dans 100 ans ?
Non, certainement pas. Je crois que dans 100 ans, au contraire, les gens auront appris à vivre plus lentement et plus sereinement, et que notre rythme leur paraîtra une chose extrêmement curieuse, démodée bien sûr, puisque tout se démode, mais enfin ils se demanderont pourquoi les gens se sont tant agités en 1958 alors qu'il était si facile de rester tranquille pour être heureux.
Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. C'est leur chanson qui rend gai, qui rend triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
L'âme des poètes, c'était Charles Trenet en 1958. Eh bien voilà, nous en avons terminé avec l'année 58. Je remercie Guillaume Maury et Julien Pichenet, réalisation signée Guillaume Vasseau. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
Retrouvez On de la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.